Vous écoutez
RMC.
Bonsoir à tous, bienvenue dans les nuits de l'after. On est ensemble évidemment en direct de New York pour vous faire vivre cette Coupe du Monde 2026 avec Walid Acharchour. Salut Walid.
Salut Karim, salut tout le monde.
Tout va bien?
Super, tout va bien, on est là. On a vu un match Espagne-Uruguay exceptionnel. J'ai jamais vu un match aussi... aussi dingue de ma vie, vraiment. On a été
subjugué
par la pression uruguayenne. Ouais. Vraiment, on a hâte de les voir en 16e de finale, l'Uruguay. Ah non,
A priori, non.
Ah,
ils regarderont les 16e devant leur télé,
c'est
a priori.
Une très bonne nouvelle pour le football, Madame Galli.
On va en parler. Maxime Chanot là également. Salut Maxime.
Salut Karine, salut Walid, salut à tous.
Justement, donc les matchs viennent de se terminer. L'Espagne a battu l'Uruguay 1-0. L'Espagne qui termine en tête avec 7 points. Les champions d'Europe en titre qui sont qualifiés pour les 16e de finale sans briller. Un petit match, l'Uruguay, on vient d'en parler, Marcelo Bielsa et ses joueurs rentrent à la maison, c'est terminé. Et c'est évidemment la sensation également, le Cap-Vert face à l'Arabie Saoudite, ça s'est terminé sur un score de 0-0. Le Cap-Vert a 3 points et le Cap-Vert va voir les 16e de finale. C'est absolument dingue, le Cap-Vert. Donc 3 matchs nuls dans cette phase de groupe. Messieurs, déjà juste un petit mot sur ça, parce que franchement, on a eu plaisir à suivre les Cap-Verdiens lors de la phase de qualification pour arriver à cette Coupe du Monde à 48. Et là, c'est quand même l'une des très très belles histoires. Là, le mot historique n'est pas galvaudé.
Ah non, il n'est pas galvaudé parce qu'il termine deuxième dans une poule de 4, donc il ne termine pas troisième. Parce que moi, je trouve que sur les deux derniers matchs, que ce soit contre l'Uruguay ou encore une fois aujourd'hui contre l'Arabie Saoudite, c'est une équipe qui a été chercher son destin. Aujourd'hui, ils ont le plus de XG par rapport à l'Arabie Saoudite. C'est l'équipe qui a le plus de situations pour aller chercher cette qualification. Et puis, ils ont terminé devant l'Uruguay, donc l'Uruguay qui normalement était l'équipe, la deuxième équipe derrière l'Espagne. Donc bravo le Cap-Vert. Ils ont été faire un match nul héroïque contre l'Espagne en faisant un match défensif incroyable. Et derrière, ils ont réussi à être maître de leur destin, même si c'est un faible total de 3 points. Ça suffit et le Cap-Vert peut être très très fier de la poule qu'ils ont réalisée.
Et puis ils sont même tout proches de gagner ce match. Hein. À la dernière minute, ils ont eu une occasion là, sur un centre à retrait où l'attaquant passe complètement à travers sur sa frappe. Ouais, non, bien joué au Cap-Vert. Moi, j'avais mis en avant justement qu'il y avait certaines nations qui n'avaient rien à faire dans cette Coupe du Monde et finalement, ils m'ont fait mentir et particulièrement par rapport à ce match nul contre l'Espagne. Aujourd'hui, ils ont 3 points, ils finissent deuxième, comme l'a dit Walid, donc c'est loin d'être ridicule. Bravo eux. Alors, il me semble qu'ils jouent l'Argentine, c'est ça, en 16e ?
Ouais, en 16e.
Donc, bon, ça va être une toute autre histoire, mais en tout cas, ouais, ils peuvent être fiers du parcours qu'ils sont en train de faire en Coupe du Monde.
Mais c'est une équipe. Mais là, le moment, il est beau, messieurs. Ils sont invaincus sur la phase de groupe, c'est complètement dingue. Ils ont tenu en échec les champions d'Europe et on va tout de suite aller retrouver Clément Brossard qui a commenté ce match historique pour les Cap-Verdiens. On voit les images, nous, avec notamment Vosinha qui est devenu une star après son premier match face à l'Espagne. C'est absolument fabuleux. Ça doit être la folie au Cap-Vert, mais c'est déjà la folie dans le stade.
C'est dingue au NRG Stadium. Salut Karine, salut tout le monde. En effet, après ce match nul décroché où vraiment ils n'ont pas un palier de leur prestation aujourd'hui parce qu'ils ont fait le match qu'ils ont voulu faire, à savoir garder la cage inviolée comme ça a été le cas déjà face à l'Espagne avec un Vosinha, tu disais, qui est élevé maintenant au rang de légende nationale au Cap-Vert. Il y a énormément évidemment d'habitants, de locaux ou d'originaires du Cap-Vert dans cette nation qu'est les États-Unis. Ils sont quasiment 1 million, un petit peu moins, 800 000 aux États-Unis. C'est plus que sur leur propre territoire où ils sont 500 000 et c'est toute une île là au large du Sénégal qui doit certainement vibrer aujourd'hui avec des visages qui resteront à jamais dans l'histoire de la nation. Vosinha qui vient de signer des autographes. On a vu aussi des grosses têtes, un peu comme on le voyait pendant les Jeux Olympiques à Paris, à son effigie. On voyait des personnes aussi avec le nom Vosinha peint sur le buste. Il y a aussi une petite histoire cette semaine avec une espèce sous-marine, sorte de limace des mers, qui a été découverte par un scientifique espagnol et qui, en l'honneur de Vosinha pour son match face à l'Espagne, l'a appelé l'Aldiza Vosinhae, comme quoi il est rentré dans les livres scientifiques
le
aussi. Vosinha, c'est absolument dingue et c'est tout un pays qui a vibré et les images en attendant la fin de cette Uruguay-Espagne étaient tout bonnement magnifique, le genre d'image qu'on adore voir.
Sacré héritage, hein.
Sur la Coupe de France, etc. Maxime, tu sais, quand le petit poussé, bah le gros, et parfois on attend ce qui se passe un petit peu sur les dernières secondes aussi. Et bien là, c'était ça vraiment, avec sur le banc de touche tout le monde autour des adjoints. Et il y a eu beaucoup de larmes dans les travées du NRG Stadium, beaucoup de larmes aussi sur les visages des joueurs du Cap-Vert, qui ont quand même maintenant une joie assez mesurée. Il s'offre un tour d'honneur de cet NRG Stadium, mais immense exploit majuscule en tout cas.
Qu'ils profitent, ils l'ont mérité, on l'a dit, ils n'ont pas perdu sur ces trois matchs de poule. Je sais qu'il y a beaucoup aussi de Cap-Verdiens du côté du Luxembourg, donc je sais que le pays au Luxembourg, ça vibre énormément par rapport à ce qu'est en train de faire cette équipe nationale. Donc bravo à eux, maintenant il va avoir un autre exploit à faire, à réaliser en tout cas contre les champions du monde en titre. Mais pour l'instant, ils ont qu'à profiter, parce que vraiment ils méritent cette place. Et ils ont fait honneur. Ils ont fait honneur à leur pays, ils ont fait honneur au football, ils ont fait honneur aux petites nations, exactement.
Et là, vraiment,
on a envie de les mettre vraiment sur le devant de la scène, parce qu'ils méritent cette situation-là. Bravo.
Même si la formule est très très clivante et qu'on dira beaucoup de choses négatives sur les troisièmes notamment et sur cette troisième journée.
Mais là, ils sont deuxièmes.
Il n'y a pas de débat, ils sont deuxièmes de toute façon.
Bien évidemment. Mais je parlais juste vraiment de ce format. Eux, pour le coup, ils ont terminé deuxième, comme je le répète, et ils font partie, pour moi, de cette ouverture sur cette Coupe du Monde, comme ils faisaient partie de cette ouverture aussi sur cette CAN à 24. Et c'est une sélection qui en a profité pour bien bien travailler, pour mettre de la cohérence, pour mettre de la joie, de la fraîcheur dans ce type de compétition. Et je suis très très content pour les Cap-Verdiens, qui méritent amplement leur qualification, et la compétition est déjà faite pour eux.
Ils n'ont pas démérité, hein, dans la manière de jouer. C'est vrai que ils ont eu tendance à avoir un bloc bas, mais on l'a vu contre l'Espagne.
Ils sont adaptés sur les trois matchs. Ils sont adaptés.
On leur promettait l'enfer contre l'Espagne, ils ont tenu. La même chose contre l'Uruguay. Aujourd'hui, voilà, ils se qualifient en tout cas avec 3 points. Bravo à eux.
Immense bravo au Cap-Vert. On pense notamment à Nuno Da Costa, qui avait fait le podcast avec nous sur RMC, qui nous parlait de sa fierté d'avoir qualifié son pays et qui a joué aujourd'hui, qui est rentré à l'heure de jeu. Franchement,
champion de Ligue 2 et vainqueur de la Coupe de la Ligue.
Absolument,
ouais. Immense. Aussi.
Ouais, non, franchement, c'est absolument magnifique ce que le Cap-Vert vient. Mais bien sûr, Ryan Mendes, formé au Havre, il était beau, ce joueur. Élégant, une biche, lui aussi. Tu trouvais vraiment que c'était un joueur élégant. À l'époque, Marseille le voulait aussi.
Il est toujours beau, ce qu'il joue.
Oui, non, mais quand il avait vraiment éclos, à l'époque, voilà. Et malheureusement, il a vu une terrible blessure à la cheville qui l'avait un petit peu. Bien sûr. On peut pas tous les citer, mais c'est vrai que.
Non, mais c'est les quatre joueurs qu'on connaît bien en Ligue 1.
Parce que il a été très sympathique et il a fait le podcast RMC, donc ça vaut un petit point en plus, Clément. Merci beaucoup, Clément, d'avoir été.
J'ajouterais juste, Boubista disait cette semaine, cette Coupe du Monde à 48 montre que le foot est pour tout le monde, et ce genre d'exploit majuscule, même si certains décrivent aussi la Coupe du Monde à 48, ça permettra à ces nations-là de vivre un rêve éveillé.
En tout cas, le Cap-Vert est en 16e de finale. On le rappelle, ils sont 2e de leur groupe, un groupe difficile. On va maintenant parler du premier du groupe. Et ce ne fut pas facile. Ce sont les Espagnols, les champions d'Europe. Messieurs, on rappelle leur parcours. Ils avaient commencé par un triste 0-0, justement, face au Cap-Vert avec un grand Vosinha. Ils avaient fait le job face à l'Arabie Saoudite 4-0. Et ce soir, on doit se contenter d'un petit 1-0 face à l'Uruguay. Les Espagnols qui passent, qui sont premiers, mais qui nous ont vraiment pas enchanté, hein. Franchement, on est loin du champion d'Europe 2024.
Oui, pas emballé du tout par cette équipe espagnole. Après, il faut le dire, ils jouent face à des équipes regroupées, mais ça va être malheureusement le cas sur 90% des matchs, parce qu'on sait très bien que réduire les espaces face aux Espagnols, c'est la seule chance pour faire des résultats. Bon, là, ils sont tombés quand même face à une équipe de l'Uruguay bien dégueulasse à regarder, et bien dégueulasse aussi à faire déjouer, avec des joueurs notamment Canobio ou d'autres qui n'étaient pas là pour jouer au football. Mais c'est vrai que cette équipe espagnole, elle fait 30 minutes de très grande qualité contre l'Arabie Saoudite, en marquant très très tôt et donc en se libérant des espaces. Mais je trouve que ça ronronne énormément. Je trouve qu'il n'y a pas assez de rythme. Je trouve qu'il y a des performances individuelles aussi décevantes. Je trouve que Rodri, notamment au milieu de terrain, n'est plus le grand Rodri. Que Merino, moi je préfère Dani Olmo que Merino dans ce poste-là. Que Lamine Yamal n'est pas revenu à son meilleur niveau. niveau physique. Derrière, bon, ça a été solide là, Laporte et Koubarsi, mais sur la durée, je sais pas si ça peut suffire. Unai Simon, moi, je pense que Raya est le meilleur gardien de cette équipe espagnole. Et puis surtout, si on regarde un petit peu dans le rétro, Karine, moi, j'arrive pas à avoir la vision sur l'Espagne en Coupe du Monde, hormis 2010 où il la gagne.
Il y a eu beaucoup de déceptions. Ouais,
souvent, c'est très décevant quand elle s'exporte face à d'autres cultures footballistiques.
Après, c'est le début.
Bien sûr, c'est le début. Mais je dis juste que ce match-là, je suis pas là pour. Bien évidemment, l'Espagne est favori. Et si demain l'Espagne gagne la Coupe du Monde, je serais pas surpris. Mais attention, j'ai deux trois red flags dans cette équipe qui m'empêche de m'enflammer. Même le statut qui est différent par rapport à l'Euro où ils étaient outsiders, là ils sont favoris.
Messieurs, juste, on va accueillir quand même Edgar Grolot. Évidemment, notre Espagnol qui va nous dire ce qu'il en pense. Parce qu'Edgar, c'est vrai qu'en 2024, vous étiez le coup de cœur de l'Euro. Vous nous aviez réconcilié avec un football qui était d'une tristesse absolue, globalement, au niveau de toutes les équipes. Et l'Espagne, c'était, voilà, l'arbre qui cache la forêt. Ouais. Là, qu'est-ce qui se passe, moi, Edgar? C'est lent, c'est vraiment compliqué, là. La montée en puissance, on l'attend du côté de l'Espagne. Oui.
Non, je suis d'accord. Je pense qu'il y a un choix de Luis de la Fuente. Et pour une fois, il a plus été déçu par le joueur. Et bah, autant la première journée, je trouve que ses choix étaient foncièrement mauvais. Autant là, aujourd'hui, je trouve qu'il a fait le choix de mettre Merino, qui aurait pu être payant si Merino était à son niveau. Mais Merino, on a clairement vu qu'il n'était pas encore au niveau pour jouer ce genre de match titulaire. Il n'avait pas été titulaire en club ni en sélection depuis le mois de janvier. On rappelle qu'il y avait eu une fracture du pied droit. Et ça s'est senti. Il n'était pas au niveau. Donc il n'y avait pas de lien. Il n'y avait pas de lien entre le milieu de terrain et l'attaque.
Il avait été bon, Daniel Olmo, même si c'était face à l'Arabie Saoudite.
Olmo est rentré, il fait une superbe rentrée. Tout de suite, on sent que Lamine Yamal, il est beaucoup plus à l'aise, il y a beaucoup plus d'espace, il y a beaucoup plus de technique.
Il y a cette complicité avec les joueurs de FC Barcelone, avec Daniel Olmo.
Sur le deuxième match, et j'ai envie de dire sur la première heure de ce troisième match où Merino, lui, n'a pas répondu présent, Olmo, pour moi, il gagne sa place de titulaire. Il gagne sa place de titulaire parce que il faut remettre ce 4-2-3-1 qui a marché à l'Euro, il faut remettre ce joueur-là qui permet à Pedri de jouer à son poste, il faut remettre ce joueur-là qui techniquement est aussi fort que les autres et permet vraiment de faire le lien et libérer des espaces pour les autres. Ça pourrait être Merino dans un style très différent, mais il est pas au niveau aujourd'hui. Donc je pense que ça a été un test aujourd'hui dans un match.
Et même Baena qui marque, moi je trouve pas ça dingue. Ouais, et le problème, c'est Nico Williams. Voilà. Oui, mais Nico Williams qui rentre.
Il attend Nico Williams.
Oui, mais Nico Williams,
physiquement. Il fait un bon match face à l'Arabie Saoudite.
Qui ça?
Baena a fait un bon match face à l'Arabie Saoudite.
Deuxième match.
Oui, mais je trouve qu'en fait, dans le profil par rapport à l'Euro 2024, si on veut caler à ça...
Tu manques un petit peu de vitesse.
Voilà, si t'as Yamal qui est à la recherche de sa meilleure forme physique et qu'on peut avoir une surresponsabilité sur le jeu espagnol, il faut essayer d'équilibrer avec Nico Williams. Et Nico Williams, on le voit encore sur ses rentrées.
Yamal, non, c'est vrai qu'il y a eu le match du Cap-Vert où on s'était dit qu'éventuellement, lorsque Yamal rejouerait, ça serait sûrement une autre Espagne, et c'est vrai que sur les deux matchs où est-ce qu'il a joué, en tout cas où est-ce qu'il était titulaire, c'était un peu plus difficile. Je sais pas ce que t'en penses. Est-ce qu'aujourd'hui, en effet, comme dit Walid,
l'aspect physique
c'est vrai que Yamal, moi, je le trouve emprunté physiquement. La même chose sur Rodri. Moi, j'ai le sentiment que les adversaires, ça, ils ont compris comment tu pouvais contrer Rodri. Dès qu'ils viennent le chercher très très haut, et ben il a plus les jambes, il a plus non plus la même capacité, en tout cas technique, à s'en sortir du pressing. Moi, je le trouve très vraiment emprunté physiquement, Rodri. Et puis tu l'as dit, aujourd'hui, on l'avait vu en 2024 à l'Euro, où est-ce qu'ils avaient deux flèches sur les côtés, Nico Williams qui est quand même en perte de confiance. En tout cas, il a jamais retrouvé sa forme de cet Euro et Yamal qui c'est pareil. Yamal, c'est un petit peu poussif, mais bon.
Après, on a vu beaucoup d'équipes.
Walid, Edgar, où est-ce que en effet sur les premiers matchs c'était un peu compliqué, c'était un peu poussif. Moi, je me pose la question, c'est leur statut d'ultra favori ne leur joue pas des tours, parce que c'est vrai qu'on attend énormément de cette Espagne.
Ils sont redescendus sur terre après le 0-0 face au Cap-Vert.
Oui, non, mais je pense surtout qu'ils le prennent avec pas mal de tranquillité. Ils savent aussi que ce statut-là, il est mérité. Et honnêtement, je pense qu'ils s'inquiètent pas du tout de cette phase de poule. Ils montent en puissance. Ils espèrent monter en puissance, même si aujourd'hui c'était encore une fois un petit peu décevant. N'oublions pas qu'en 2010, l'Espagne avait perdu son premier match face à la Suisse, avait galéré sur certains matchs. Ils ont cet exemple-là en tête. Ils savent que tout peut pas être facile tout le temps. Et encore une fois, vraiment, je pense que leur objectif, c'est pas d'être les meilleurs en phase de poule.
Monter en puissance, en fait.
Ils ont envie d'être les meilleurs une fois que c'est vraiment vital. Là, ils terminent quand même premier de leur groupe. Ils ont jamais tremblé, même si c'était poussif. Ils n'ont jamais tremblé. On n'a jamais un moment où on s'est dit oula, l'Espagne va pas terminer première du groupe. Donc il y a pas vraiment d'inquiétude. Je pense aussi qu'il y a des facteurs qui vont pas dans le sens de cette équipe-là, dans le sens où Lamine Yamal, effectivement, il revient de blessure. Nico Williams, bon, on connaît tous les problèmes physiques qu'il a. Et le problème, c'est que derrière, t'as deux ailiers. Victor Muñoz, qui est le seul qui n'est pas encore disponible pour jouer. Et Victor Muñoz, c'est le profil qui est le plus proche de Nico Williams et Lamine Yamal en termes de profil. Pas forcément en termes de niveau, mais en termes de profil, provocateur, etc. Très frais. Et à chaque fois qu'il a joué en équipe d'Espagne, il était très bon. Et lui, il n'est pas encore disponible. Et le quatrième ailier, c'est Jérémy Pino, qui est sûrement le moins bon joueur de ces 26-là. Donc, De La Fuente, tu sens qu'il lui fait pas vraiment confiance. Il le fait rentrer sur des fins de match. Il a fait rentrer à la mi-temps face à l'Arabie Saoudite. Il a rien donné pendant 45 minutes. Donc, c'est très poussif. Donc, forcément, bah, ton équipe, il y a un problème d'équilibre. Ça se ressent, ça se voit. Il y a des problèmes de choix. Je pense que De La Fuente, il s'adapte. Mais honnêtement, c'est une équipe quand même qui dégage de la tranquillité dans tout ce qu'elle dit, dans toute la façon dont elle vit son quotidien. Pour vous dire, il y a encore 3 jours, il faisait un barbecue avec la presse, avec tout le monde, avec Luis De La Fuente qui venait discuter avec tout le monde. Donc voilà, c'est une ambiance vraiment de se dire, ok, on est favori, on le sait, on l'assume, mais rappelez-nous quand on sera en 32e de finale, en 16e de finale, en 8e de finale, on verra notre vrai niveau et c'est là qu'on va devoir répondre présent. Ils le savent. Et combien d'équipes on a vu, je pense à la Belgique parfois, je pense à d'autres équipes qu'on a vu tout défoncer.
Oui, mais après, Edgar, c'est pas la même chose. Après, la Belgique, pour le coup, ils sont comme des outsiders, c'est une nation qui déçoit malheureusement très souvent, alors que l'Espagne, ils sont forts. Ouais.
Non,
de
mais
leur
je parle par le passé quand ils étaient parmi les favoris.
Et puis
ils étaient dans le hasard,
des équipes qui ont tout défoncé en poule et qui n'ont rien donné après.
Dans une Coupe du Monde à ce format, encore une fois, je pense qu'il ne faut pas trop s'inquiéter, en tout cas, des contre-performances, en tout cas, de certaines équipes. On l'a vu, il y a beaucoup de grosses nations qui n'ont pas forcément très, très bien débuté. Et quand tu regardes un petit peu cette Espagne qui sort du groupe avec 7 points, honnêtement, c'est honorable.
Oui, mais il y a deux, trois questions qui interpellent quand même.
L'équipe de France n'avait pas gagné son troisième match depuis 2006, par exemple. Donc, si tu fais pas un.
Oui, mais parfois, l'équipe de France faisait beaucoup tourner. Souviens-toi face à la Tunisie.
Non, mais c'est pas le parcours parfait ou pas, moi, Edgar. C'est juste les deux, trois questions, là, sur l'aspect physique. Rodri par rapport à ce qu'il était en 2024. Yamal et Nico Williams.
Ça, je suis d'accord avec toi.
Moi, Koubarsi fait un super match aujourd'hui, mais est-ce que Koubarsi l'apporte face à de la vitesse? Est-ce que ça passe? C'est Olmo ou Merino? Tu vois, c'est
trucs-là. Encore, c'est des choix, ça, Walid.
Oui, mais je parle même sur. Moi, je trouvais qu'en 2024, les mecs étaient à leur pic physique. Ils arrivaient avec une dalle et une détermination incroyable. Et là, je le ressens moins. Maintenant, ça ne veut pas dire que cette équipe-là va pas gagner la Coupe du Monde, loin de là. Mais je trouve que après cette phase de poule, je me pose quand même une ou deux questions. Ou si ça sort en quart ou en demi, bon, je serai pas non plus sur le cul par rapport à ça.
C'est légitime. Il y a beaucoup d'interrogations, messieurs. Il faut qu'on avance parce qu'on est pris un petit peu par le temps. On va parler de l'Uruguay. C'est l'énorme déception.
On est obligé
également
de parler de
cette phase de groupe. Oui, et on va écouter notamment Marcelo Bielsa, le sélectionneur de l'Uruguay. On le sait que ça a été compliqué avec certains de ses joueurs. L'Uruguay rentre à la maison. On écoute l'ancien entraîneur de Marseille.
Bueno, no, yo no logré potenciar el poderío que tenía Uruguay en sus jugadores.
Je n'ai pas réussi à exploiter le potentiel et la qualité qu'avaient ces joueurs uruguayens.
Que pudo hablar con Mulera en el entretiempo que lo logra quitar.
Nada.
Gracias.
De nada.
D'accord.
Marcelo Bielsa, il est effectivement.
C'était quoi la question? C'était quoi la question avant Nada?
J'étais en train de traduire sa réponse, donc j'ai pas entendu la question, mais il a répondu rien. Donc voilà.
Okay. Et en fait,
il a pas été très bavard, Marcelo Bielsa. Évidemment, c'est une énorme déception, messieurs, parce qu'on rappelle quand même 1-1 face à l'Arabie Saoudite, 2-2 face au Cap-Vert, et il termine par une défaite face à l'Espagne. Donc c'est quand même un résultat de 2 petits points. Les problèmes avec les joueurs, le contenu des matchs qui est quand même très décevant.
C'est le gros flop de cette.
C'est un raté total.
Pour l'instant, c'est le gros flop.
Mais pour le coup, il a été très honnête. On en parlait avec Walid la dernière fois quand je disais que pour moi, Bielsa était dépassé. Alors non pas par rapport à sa vision du football, mais par rapport à la manière dont, en tout cas, il est en mesure de pouvoir connecter ses joueurs. En fait, c'est ça la problématique de ces entraîneurs qui sont quand même fatigants ou ce qui demandent énormément. On en connaît quelques-uns dans le football moderne. Et moi, pour moi, cette méthode, en tout cas, d'entraîner, c'est terminé. Aujourd'hui, honnêtement, les choix qu'il a fait encore, il te fait sortir. Alors, certes, le gardien fait une erreur sur le but espagnol, mais il te le fait sortir à la mi-temps. Tu sens que derrière l'équipe, elle est déconnectée complète. Et moi, je pars vraiment du principe. Et je me rappelle que Walid n'était pas forcément d'accord avec moi. Pour moi, ces entraîneurs, c'est fini dans le football moderne. Les Bielsa, c'est mort. Les José Mourinho, c'est mort. Et là, on a encore le parfait exemple. Aujourd'hui, il faut arriver à connecter tes joueurs. Il n'y arrive plus. C'est terminé.
On arrête là, hein, Marcelo.
Non, mais pour le coup, force est de constater, même si moi, je n'étais pas d'accord après les deux premiers matchs où je voyais quand même des choses et je les trouvais mal payés. Là, le problème, c'est que c'est une équipe de catcheurs, en fait, aujourd'hui. Tu vois, Canobio, etc. Les mecs, ils font des
choses. Il a pris un
n'importe quoi.
Le visage.
Il a quand même pris l'arbitre par son maillot.
Ah ouais, mais le visage, il est dramatique. Là, on dépasse en fait le cadre du football. Et c'est vrai que tu sens qu'il se passe quelque chose. Enfin, il se passe rien dans cette équipe. Et surtout, il se passe quelque chose entre le sélectionneur et les joueurs, avec tout ce qui est sorti dans la presse uruguayenne ou espagnole aujourd'hui, avec Valverde, avec les cadres, le fait de ne pas avoir pris Luis Suarez. Et il y a eu un flop en 2024 à la Copa América. Là, c'est quand même
sur la dernière Coupe du Monde. Aussi,
oui, bien sûr, mais depuis que Bielsa est arrivé, il y avait l'objectif de la Copa América, ça a été un flop. Là, ne pas passer dans cette poule, avec tout le respect que j'ai pour le Cap Vert et pour l'Arabie Saoudite, quand tu vois qu'il y a autant de meilleurs troisièmes qui passent, c'est une anomalie pour une sélection comme l'Uruguay. Et tu te fais plomber par un gardien qui a 39 ans sur le dernier match, avec la relance du défenseur, et là tu prends un but bête sur Baena. T'as très très peu de joueurs de football dans cette équipe, en tout cas ils nous l'ont pas montré sur cette compétition. Et oui, force est de constater, Bielsa, même si moi j'aime beaucoup le coach, que le yaourt est périmé, quoi. On est arrivé à la date de péremption et qu'à un moment donné, c'est triste à dire, mais tu sens qu'il a plus les ressorts et que ça ne marche plus en termes de management. Même si moi je pense qu'il a quand même deux trois éléments, notamment un joueur du Real Madrid qui n'est pas le plus
il a sorti 60e.
Bah, oui, je te parlais de cassure.
Oui, il sort, il se cache la bouche avec son maillot Valverde en arrivant sur le banc. Oui,
moi Valverdé, je vais te le dire, Edgar, entre ce qui s'est passé avec Xabi Alonso cette saison, avec Tchouaméni, les échos que j'ai sur l'histoire avec Tchouaméni, parce que je vais pas rentrer dans les détails, je vais rester sur le foot, et est-ce qu'il sort là encore sur la phase de poule où il est quand même leader et capitaine de cette équipe. Moi je suis pas sûr que Valverde soit le leader incontesté ou le bon mec ou le bon coéquipier. Après encore une fois, moi je suis pas là pour juger,
il y a
des comportements et des attitudes cette saison qui me déplaisent énormément de la part de Valverde, et qui me font penser ça. Après, peut-être que je me trompe, mais globalement, ouais, c'est un foutoir pas possible, l'Uruguay, et c'est une catastrophe.
C'est un énorme couac. En tout cas, on rappelle qu'il était arrivé en mai 2023, Marcelo Bielsa, et donc l'Uruguay qui prend la porte. Merci beaucoup, Edgar, d'avoir été avec nous pour parler de l'Espagne. On rappelle donc que l'Espagne s'est imposée 1-0 face à ses Uruguayens. L'Espagne qui est premier de son groupe, et la sensation, l'exploit, c'est donc le Cap-Vert qui est qualifié deuxième du groupe après son match 0-0 face à l'Arabie Saoudite. Vous savez qu'un petit peu plus tard, d'ici moins d'une heure, dans une demi-heure exactement, il va y avoir le final du groupe G, Égypte-Iran et Nouvelle-Zélande-Belgique. L'Égypte est en tête pour l'instant du groupe. L'Iran et la Belgique sont à 2 points. La Belgique en grand danger. Et messieurs, dans quelques instants, évidemment, on va revenir sur les Bleus. Les Bleus, 4-1, une victoire tranquille face à la Norvège. Une première place pour les 16e de finale. On en parle dans quelques instants. À tout de suite sur RMC.